cultura en tus ondas.
Partez à la découverte de la culture des pays hispanophones avec les élèves de la section espagnole Bachibac du lycée Kiné.
Cultura en tus ondas.
Bonjour à tous, moi c'est Sacha.
Et moi c'est Mélanie. Nous sommes des élèves de seconde Bachibac du lycée Edgar Kiné. Cette section nous permet de passer le baccalauréat ainsi que son équivalent espagnol, le bachillerato.
Aujourd'hui, on va vous parler del Museo Nacional del Prado, le musée national du Prado qui se trouve à Madrid. Prado signifie prairie en espagnol, parce que le lieu où il est situé était justement une prairie. Mais de nos jours, ce musée se trouve au cœur de la ville de Madrid.
Il est connu dans le monde entier. Si vous passez par Madrid, vous devez absolument le visiter. Car ses œuvres d'art et toute l'histoire qu'il renferme font le bonheur des gens de tous les âges et de toutes les cultures du monde. En 2011, le musée a enregistré plus de 2 900 000 entrées et ce chiffre ne cesse d'augmenter chaque année.
Radio B, les bonnes ondes.
Le musée du Prado a été inauguré le 19 novembre 1819. À l'époque, il s'appelait Museo Real, le musée royal. Au départ, lors de sa construction en 1785, ça devait être uniquement un cabinet de curiosités. Il n'a pas été terminé. Et comme tu le sais, Mélanie, plus tard, le projet a finalement évolué en musée. Aujourd'hui, il fait dans les 43 000 mètres carrés.
Et c'est vrai que ça fait plus de 200 ans qu'il existe aujourd'hui ?
Oui, exactement. Le musée a fêté son bicentenaire en 2019. Et à cette occasion, il a beaucoup fait parler de lui. Présentation des œuvres d'artistes prestigieux, exposition itinérante à travers toute l'Espagne, activités pour rendre accessibles les œuvres d'art aux personnes malvoyantes, partenariat avec le théâtre, la danse ou encore le cinéma. Ce n'est pas pour rien que ce musée est considéré comme l'un des plus importants du monde.
Le Prado présente en grande majorité des toiles européennes, que ce soit flamandes, italiennes, allemandes, françaises ou espagnoles. Elles ont été collectionnées du XIVe siècle et jusqu'à la fin du XIXe siècle par des rois d'Espagne, et en particulier les familles Habsbourg, qui ont régné pendant 2 siècles en Espagne, et aussi par les Bourbons.
Un grand nombre de peintres espagnols reconnus dans le monde entier sont sur les murs du Prado, et l'exposition permanente a aussi des trésors venus d'autres pays. C'est par exemple dans la grande galerie principale qu'on peut voir les Trois Grâces de Rubens, un peintre de l'école flamande.
Pour en savoir plus sur le musée du Prado, nous écoutons David Ruiz, diplômé de l'Université de Madrid en histoire de l'art, fondateur et directeur de l'agence madrilène Madrid Original, qui propose des visites conférences atypiques de la ville de Madrid.
Bonjour David Ruiz. Le Prado est l'une des pinacothèques les plus importantes d'Europe. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une pinacothèque ?
Pinacothèque serait un musée spécialisé en peinture. Alors le musée du Prado, certes, est célèbre à cause de sa peinture, de ses peintures, mais ce n'est pas strictement une pinacothèque. Il a la réputation de l'être, mais c'est beaucoup plus que ça. Déjà, le nom officiel est quand même celui de musée, Musée National du Prado. Et à l'origine, lorsqu'il est né en 1819, il est né en tant que musée royal de peinture et de sculpture. Il est vrai que la collection de peinture est beaucoup plus vaste et beaucoup plus célèbre que celle de sculpture. Mais aujourd'hui, il n'y en aurait pas uniquement des sculptures et des peintures, mais aussi les arts décoratifs, c'est-à-dire mobilier, orfèvrerie, des gravures, des dessins, et puis évidemment pour couvrir la partie la plus moderne du musée, c'est-à-dire le 19e siècle, un autre art typique du 19e, comme serait la photographie.
On dit qu'une grande partie des toiles qu'on peut voir au Prado sont du siècle d'or. Qu'est-ce que c'est exactement le siècle d'or en Espagne ?
C'est une expression par laquelle on désigne particulièrement le XVIIe siècle, né en principe pour désigner la littérature espagnole. Ce siècle d'or durerait un tout petit peu plus qu'un siècle. Et il se trouverait en partie couvrant ce XVIe siècle qui correspond à la littérature de Garcilaso ou de Sainte Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse d'Avila. Et se terminerait dans la deuxième moitié du XVIIe siècle avec un personnage de Calderón. Mais pour ne citer que les noms véritablement célèbres de la littérature espagnole, disons que c'est le siècle 50 ans avant, 50 ans après la publication de Don Quichotte par Cervantes. Pour la peinture, ça serait plutôt décalé sur ce XVIIe siècle et il correspondrait à des noms tels que El Greco, et se terminerait avec Murillo, qui serait à peine décédé un an après Calderón.
Selon vous, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater lors d'une visite au Prado ?
Évidemment, dans une visite au musée du Prado, il ne faut pas rater les grands classiques du siècle d'or espagnol, El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez particulièrement, qui serait donc le chef de file de cette école, et Murillo. Et puis un autre artiste espagnol de taille, de dimension universelle, mais qui ne correspond pas à ce siècle d'or, serait Goya, dont évidemment le musée est le plus riche au monde. En dehors des peintres espagnols, il faut signaler dans la peinture flamande Bosch pour le 15e-16e siècle et Rubens pour le 17e. Et pour les Italiens, évidemment, Titien. Pour Bosch, pour Titien et pour Rubens, le musée du Prado est le plus riche au monde, encore une fois, bien que pour être le plus riche au monde, il suffit d'avoir 6 Bosch et il faut avoir au moins 70 Rubens.
Merci à David Ruiz, guide conférencier à Madrid, de nous avoir donné ses explications.
Pour en revenir à la peinture espagnole, 4 salles sont réservées au grand peintre Diego Velázquez, 4 autres au Greco et à ses toiles maniéristes si particulières, et 3 salles pour Francisco de Goya, dont l'œuvre est un peu plus récente. C'est au Prado qu'on peut voir des œuvres très connues telles que Las Meninas de Velázquez ou El 13 de Mayo, le 3 mai, de Goya, qu'on a étudié en histoire-géographie au collège.
Oui, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, Eléane et Lorraine ont déjà fait une chronique sur ce chef-d'œuvre que vous pouvez retrouver en podcast sur radio-b.fr.
Radio B 90 FM.
En plus des nombreuses peintures, on peut voir au musée du Prado plus d'un million de sculptures gréco-romaines, près de 10 000 dessins et estampes, de nombreux objets décoratifs et des documents historiques.
Grâce aux travaux d'agrandissement menés par Rafael Moneo, qui est un architecte espagnol de grande renommée internationale, plus de 1300 œuvres sont exposées en permanence. Plus de 3000 sont régulièrement prêtées pour être exposées dans d'autres galeries et instituts reconnus du monde entier.
De plus, Moneo a également conçu les lieux dédiés aux expositions temporaires ainsi qu'un auditorium. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le calendrier de ces expositions sur le site du musée.
Vous écoutez Radio B.
Nous avons recueilli quelques témoignages sur ce musée de la capitale espagnole.
Salomé Sempere est guide touristique dans la région de Madrid et la ville de Tolède. Elle nous raconte une anecdote sur le musée du Prado.
Une belle anecdote, ça c'est avec le premier roi de la famille de la dynastie Bourbon est venu ici avec les trésors du défunt. Et alors, en 1918, il y a eu un vol dans les musées du Prado. C'est quelque chose que ça arrive pas très souvent. Mais dans ces cas, les voleurs, il a pris seulement que certaines pièces du trésor du défunt. Les trésors, c'est constitué par plus de 120 objets d'orfèvrerie du 16e, du 17e siècle. Alors, il a pris quelques pièces, 11, et il a placé les autres comme s'il n'y avait pas de problème. Et quelques jours plus tard, un travailleur de musée a été accusé de ces vols.
Merci Salomé Sempere, guide à Madrid et Tolède.
Thierry Farcy est un musicien français. Il réside depuis 2 ans à Madrid. C'est un visiteur régulier du Prado.
Effectivement, je me rends souvent au musée du Prado, tout d'abord parce que j'ai la chance de résider dans le même quartier et parce qu'avec le musée Sorolla, c'est un de mes lieux culturels préférés de Madrid. Ce n'est pas un musée encyclopédique, on ne va pas y voir autant de chefs-d'œuvre qu'au Louvre, mais il abrite certainement la pinacothèque la plus grande du monde et il présente des collections cohérentes et qui brillent par leur intensité. De plus, quand on connaît un peu son histoire, on sait que c'est un rescapé de la guerre civile espagnole et que sans l'action de Maria Teresa León, on ne pourrait certainement pas admirer aujourd'hui bon nombre des chefs-d'œuvre qu'il abrite. Alors, je me délecte de ce qu'il a me montré.
Comment pourriez-vous définir ce musée ?
Théophile Gautier disait qu'il faudrait un volume entier pour définir le Prado. Alors, le définir en quelques mots, j'ai envie de dire que c'est un livre d'images qui raconte l'histoire d'Espagne du XIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. D'une part parce que la grande majorité des œuvres sont issues des collections royales et que donc elles contiennent un nombre appréciable de portraits des rois et de leurs familles, de scènes représentant la vie à la cour, et d'autre part parce qu'il abrite des chefs-d'œuvre qui représentent des moments clés de l'histoire de l'Espagne. On pourrait citer Isabelle la Catholique dictant son testament, la reddition de Breda, El 13 de Mayo, el fusilamiento de Torrijos. Je crois que ce qui me plaît le plus de ce musée, c'est ce qu'il nous raconte sur l'histoire de l'Espagne, le rapport du peuple espagnol à la religion et ce qu'il a nous montré de l'âme castillane.
Merci à Thierry Farsi, musicien résident à Madrid.
Radio B, les bonnes ondes.
Mélanie, savais-tu que le Prado s'est servi de son impact international pour s'associer avec le WWF, le Fonds mondial pour la nature ? Ensemble, ils ont lancé une campagne de sensibilisation pour alerter le public sur le réchauffement climatique.
Eh oui, Sacha, le Prado est aussi un musée engagé. En 2019, 4 œuvres provenant du musée ont été détournées dans des affiches à l'occasion de la COP25 qui se tenait à Madrid du 2 au 13 décembre. Par exemple, un des tableaux utilisés pour cette campagne est Philippe IV à cheval de Velázquez.
Oui, je l'ai vu cette affiche. Le cheval du roi est représenté immergé dans l'eau pour illustrer la montée des eaux qu'on peut craindre pour l'avenir de notre planète. Dans le même esprit, dans Le parasol de Francisco de Goya, les personnages qui normalement se trouvent dans un paysage de verdure ont été représentés dans un camp de réfugiés climatiques.
Le Prado est aujourd'hui le premier musée espagnol et l'un des pionniers dans le monde à mettre à disposition de ses archives historiques près de 12 000 documents numérisés. Les plus anciens datent de 1814. Le Prado a su se moderniser au fil des années.
C'est la fin de cette chronique sur le musée du Prado. Merci pour votre écoute
et bonne journée sur Radio B.
Cultura en tus ondas.
Partez à la découverte de la culture des pays hispanophones avec les élèves de la section espagnole Bachibac du lycée Quinet.
Cultura en tus ondas.